Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de la mort de Patrick Izoard. Un épisode de Faites Entrer l'Accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Pierre-Antoine Souchard, rédactrice en chef Isabelle Clairac. Bonne écoute.
La PJ décide d'abord de réentendre tous les proches de Patrick Izoard.
Le commandant Boris Verrière est au travail.
Un de ses collègues va nous dire « Quand j'ai découvert le scooter de Patrick Izoard, on a pensé à une grotte qu'on connaît tous de notre enfance, qui n'était pas très loin. »
La grotte du Vigneret, un entrelac de galeries abandonnées où les ados aiment à se faire peur. Elle se trouve à 200 mètres de l'endroit où Patrick Izoard avait rendez-vous avec Audrey Louvet. Le collègue de Patrick explique qu'il s'y est rendu le lendemain de la disparition, sans s'y enfoncer très loin.
Là, je dois vous avouer qu'avec mon collègue, on était vraiment scotché, puisque apparaissait dans la procédure initiale du commissariat de Sète qu'une vérification avait été faite et que cette grotte était condamnée.
La patrouille dépêchée le 30 juin par le commissariat n'est donc pas entrée dans la grotte, alors que c'était possible puisque le collègue de Patrick Izoard l'a fait.
On s'est dit, ah non, mais là, il y a peut-être eu un gros raté.
Les policiers s'y précipitent.
Il a fallu qu'on utilise nos lampes tactiques pour s'éclairer, parce qu'effectivement, c'était très très sombre. Au bout d'une quinzaine de mètres, on a commencé à sentir une odeur qu'on ne connaît que trop bien, la brigade criminelle. En avançant, on a retrouvé dans un renfoncement, dans une petite cavité, un corps qui était en état de décomposition avancée et partiellement calciné. Le corps était divisé en deux, puisque le foyer de combustion était au niveau de la taille, ce qui avait occasionné une séparation entre la partie supérieure et la partie inférieure du corps.
Devant l'entrée de la grotte, les sirènes et le balai des voitures de police finissent par ameuter le quartier. Et un voisin alerte le frère de Patrick.
Moi, j'arrive à la grotte, je vois tous les pompiers, tous les hommes en blanc et tout, là, la police scientifique. Hein. Et donc, bon, j'ai voulu rentrer, ils m'ont empêché. Et puis, les gars de la CRPJ m'ont dit « Ne rentrez pas, ça sert à rien. Bon, on ne sait pas encore si c'est votre frère, là. Le corps est brûlé. » Mais voilà, ça a été difficile. Ça a été difficile, mais bon, moi je savais que c'était lui. Hein.
Dominique, qu'est-ce qui permet de dire que ce corps, qui est en partie brûlé et à l'humidité depuis 25 jours, est bien celui de Patrick Izoard ? C'est l'ADN ?
L'ADN, oui, mais pas seulement. Hein. Il a aussi deux tatouages sur l'omoplate, une tête d'Indien et un buste de Jim Morrison. Les tatouages de Patrick Izoard. Le corps a été pratiquement coupé en deux au niveau de la taille par la combustion, hein, mais les policiers distinguent encore deux morceaux de ruban adhésif autour des épaules et autour du cou qui ont servi à entraver la victime, un ruban adhésif blanc.
Patrick Izoard est mort avant ou après la crémation ?
Il est mort avant la crémation, il n'a pas de suie dans les poumons, il ne respirait plus au moment où son corps a été aspergé d'essence et enflammé.
Il a été tué comment ?
Son corps présente deux traces de plaies par balle, deux tirs mortels. Le premier au-dessus de l'œil droit, la décharge a fait exploser toute la partie droite de la boîte crânienne. Deuxième entrée de balle, au niveau de la clavicule droite, une décharge qui a pénétré en descendant, qui a fracassé les deux premières côtes et qui a criblé le poumon de plomb.
Criblé de plomb, c'est une arme de chasse.
Forcément. Et le balisticien va même préciser que c'est un calibre 12. Il le dit parce qu'on retrouve à l'intérieur de la boîte crânienne la bourre de la cartouche. La bourre, c'est ce tampon de mousse qui sépare la poudre en bas des plombs en haut. La bourre est entrée dans la boîte crânienne à la suite directement de la décharge de plomb. Ça signifie un tir à très courte distance, quelques dizaines de centimètres au maximum. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un détail qui va intriguer le balisticien et le légiste. On retrouve dans la boîte crânienne des fibres d'un tissu de couleur claire.
C'est quoi ces fibres ?
Elles sont et dans la boîte crânienne et sur les plombs dans la boîte crânienne. Et ces fibres-là ne peuvent pas provenir de la cartouche de chasse. C'est un mystère.
Et est-ce que la police technique a retrouvé l'ADN des suspects sur le corps ou dans la grotte ?
Non, nulle part. Même pas sur le ruban adhésif qui servait à entraver la victime.
Je m'étais préparé. Je savais que je ne reverrais plus mon frère vivant. Ça, je l'avais dit à ses collègues. Tout le monde me disait « Non, on va le revoir. » Moi, je m'étais préparé un peu à ça.
Mais comment annoncer cette mort violente à une mère de 86 ans ?
C'était difficile, hein. Mais bon, elle a compris, hein. Au regard, elle a compris. Mais bon, j'y étais préparé quand même. Je savais très bien qu'un jour, on le retrouverait comme ça. Hein. Enfin, comme ça. Et pas tué par balle, enfin, brûlé.
Il a fallu ensuite annoncer la terrible nouvelle à la fille de Patrick, Alabama.
J'étais en train de jouer au Monopoly avec ma grand-mère. Et il fait un signe de la main à ma grand-mère, et ben moi je comprends pas. Hein. Mon oncle s'en va et nous on continue à jouer au Monopoly. Et en fait, il venait de lui dire que mon père, on l'avait retrouvé, qu'il était décédé. Et moi je le savais pas. C'est ma mère qui me l'a appris et elle m'a dit on a retrouvé papa. Voilà, dans une grotte. Pour moi c'était très compliqué, ça a été un choc émotionnel. J'ai hurlé, j'ai pleuré, je sentais plus mon corps. Je suis tombée. On s'est tous rejoints dans le salon, enfin ma famille, et on a vu du coup les infos.
Un corps calciné, ligoté, un impact de balle à la tête. À 7, les enquêteurs explorent la piste criminelle après la...
À 12 ans, ce jour-là, le 17 juillet, je comprends que c'est un assassinat.
Le collègue de Patrick, Lucien Sénon, n'en revient pas.
J'ai une colère qui monte en moi. Je n'arrivais pas à m'imaginer qu'on puisse faire ça.
À ce moment-là, moi, il n'y a qu'une chose qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui s'est passé. Moi, ça me tourne dans la tête, ça. J'ai dit, je pensais qu'à ça.
Même sans ADN et même sans ses empreintes, les policiers restent persuadés que le coiffeur est dans le coup. Mais pas tout seul.
On se dit que c'était certainement compliqué d'à la fois tenir un fusil pour menacer et exécuter Patrick Izoard et en même temps pouvoir lui mettre ce scotch autour des épaules. Ça implique certainement la participation de plusieurs personnes.
Audrey Louvet ou un autre complice ? Les recherches dans l'entourage des deux suspects ne donnent rien.
La seule personne qui pourrait avoir des raisons d'en vouloir à Patrick Izoard, c'était Rémy Chen.
Du reste, le coiffeur ne s'en est pas caché.
On a plusieurs témoignages qui ont fait part de menaces qui ont été proférées par Rémy Chen à l'encontre de Patrick Izoard.
Dans les mois qui ont suivi la mort de Nadège, Rémy aurait menacé Patrick. Toi, un jour, je t'aurai. Dominique, les premières expertises techniques des téléphones portables et des ordinateurs de Rémy Chen et d'Audrey Louvet arrivent au juge d'instruction fin octobre. Alors qu'est-ce qu'elles apportent ?
Savez-vous, Rachid, ce qu'est un dictionnaire dynamique ?
Pas du tout.
Eh bien, vous en utilisez un tous les jours sans le savoir ou sans savoir comment ça s'appelle.
C'est quoi ?
Lorsque vous prenez votre smartphone pour envoyer un SMS, il y a une fonction qui s'appelle la saisie suggestive. Si elle est activée dans votre téléphone, elle vous suggère des mots ou elle corrige ceux dans lesquels vous avez fait une erreur. Et chaque jour, votre téléphone s'enrichit de ces nouveaux mots que vous lui donnez. Et sur le téléphone de Rémi Chen, la fonction saisie suggestive était activée.
Alors, j'imagine que certains mots vont intéresser les enquêteurs.
Ah, vous n'allez même pas le croire. Ce qu'on retrouve dans son téléphone, les mots alibi, attiré, cartouche, cimetière, enflammé, essence, fumée, preuve, réinitialisé et le mot Vigneret.
Vigneret, c'est la grotte où était retrouvé Patrick Izoard.
Exactement.
On dirait un résumé de toute l'histoire.
Mais c'est encore mieux que ça. C'est encore mieux que ça parce que l'utilisateur du téléphone a entré les coordonnées GPS d'un point géographique dans Google Maps. C'est le lieu où Rémi Chen dépose Audrey Louvet le 23 juin, jour où elle a rendez-vous avec Patrick Izoard. Et plus fort encore, ces coordonnées, elles sont entrées dans le téléphone au mois de mars, 3 mois avant la mort de Patrick Izoard. C'est ballot, hein ?
C'est ballot.
L'expertise du téléphone de Rémi Chen conforte donc encore les soupçons de la PJ. Mais cela ne suffit toujours pas à prouver que c'est lui qui a tiré. Pour remonter l'auteur du crime, les policiers vont donc reprendre un à un les indices retrouvés dans la grotte. À commencer par le ruban adhésif qui entravait la victime.
C'est un fabricant espagnol qui fournit un grossiste en France. C'est un adhésif qui est à usage d'isolation pour le chauffage et la climatisation.
Plus de 2000 professionnels ont acheté cet adhésif dans la région ces 2 dernières années. Les policiers vont tous les rechercher.
On a évidemment creusé sur la personnalité de ces professionnels, de ces artisans, des employés des sociétés, des gens chez qui les travaux ont été faits. Et en fait, à chaque fois, aucun lien n'a été trouvé avec ces personnes et nos protagonistes.
L'impasse aussi sur l'essence. Qui l'a acheté pour incendier le corps ? Là encore, les policiers ne ménagent pas leur peine de station-service en station-service. Sans résultat. Il faudrait retrouver l'arme du crime. En garde à vue, Rémi Chen a admis qu'il avait eu un permis de chasse dans sa jeunesse. Mais il n'y a ni fusil, ni munitions chez lui.
On va procéder à des recherches avec un chien spécialisé dans la grotte, puisque cette grotte, c'est en fait vraiment un dédale de galeries très important qui a été creusé sous le Mont-Saint-Clair. On ne retrouvera pas l'arme à cet endroit. Et on sait aussi que Rémi Chen a pu également s'en débarrasser à de nombreux endroits, étant donné qu'il avait aussi un bateau.
Les policiers gardent quand même espoir de prouver que Rémi Chen est bien dans le coup, parce qu'ils ont encore un tout petit élément dans leur manche, un élément à la Colombo.
Un détail génétique qui n'est pas négligeable, c'est qu'il y a un mégot qui a été retrouvé dans la grotte à 2 mètres du corps de Patrick Izoard, et sur ce mégot, c'est l'ADN de Patrick Izoard qui ressort.
Ce mégot, les policiers peuvent le dater grâce aux images de la station-service. Quand à 16h34, Patrick Izoard et Audrey Louvet prennent la direction du rond-point où se trouve l'entrée de la grotte.
Patrick Izoard est en train de fumer une cigarette. On sait aussi que dans le top case de son scooter, on va retrouver un paquet de cigarettes entamées et que donc, il n'a pas pris d'autres cigarettes avec lui. Donc on sait très bien qu'il y a un temps qui est très restreint entre le moment où Patrick Izoard passe avec Audrey Louvet, s'allume cette cigarette, et le moment où il est dans la grotte et où il va jeter son mégot au sol.
2-3 minutes maximum.
Ça ne fait que confirmer l'implication d'Audrey Louvet comme appât pour amener Patrick Izoard à la grotte.
Une téléphonie suspecte, un mégot inespéré, l'enquête progresse. Mais encore trop lentement au goût de la famille Izoard.
Mais quand je vois que l'enquête piétine un peu, que ça avance pas, moi je mobilise un peu les médias, quoi.
En février 2016, le frère de Patrick Izoard participe à sa première émission de télévision.
Un appel à témoins, en direct. Et ça a porté ses fruits.
Au Standard, une femme affirme qu'elle a reçu les confidences d'Audrey Louvet. Et elle raccroche, sans laisser de numéro. Mais la PJ retrace l'appel. Et elle remonte à une femme qui fréquente Audrey Louvet depuis son déménagement à Lunel en 2015. Une voisine.
Elle va nous raconter les confidences d'Audrey Louvet, qui lui dit qu'elle a été complètement manipulée par Rémi Chen, qu'elle ignorait complètement ce qui allait se passer, qu'il l'a utilisée en tant qu'appât pour attirer Patrick Izoard dans cette grotte.
Le 31 mars 2016, la police interpelle donc Audrey Louvet et Rémi Chen, qui s'insurgent devant le juge. Un traquenard dans la grotte ? Jamais. Ni l'un, ni l'autre. Mais cette fois, c'est la mise en examen pour assassinat et la prison. Et les avocats des deux suspects bondissent.
Parmi eux, le ténor Franck Berton assure la défense de Rémi Chen.
Il va falloir une émission de télévision plus que contestable pour avoir un témoignage plus que douteux.
Protestation aussi de Maître Eva Fournier, l'avocate d'Audrey Louvet.
Ce qui est sûr, c'est que ce témoignage, il n'est pas crédible parce que, si je peux vous donner juste un exemple, cette dame, elle dit « Oui, Audrey m'a montré Rémi, le coiffeur, en photo, il est noir ». On comprend que cette dame, elle mélange tout entre ce qu'elle a entendu à la télé, ce que lui a dit Audrey, ce qui se dit dans Lunel, bon bref, des rumeurs. Procéduralement, pour moi, je maintiens le fait que c'était juste un prétexte pour pouvoir rattraper un peu le fait que depuis 16 mois, ils avaient été laissés dehors.
Et la détention provisoire va être un moyen de pression assez important en ce qui concerne Audrey Louvet. Donc Rémi Chen ne cesse, lui, de clamer son innocence comme au premier jour. Mais Audrey Louvet est une personne fragile qui, aussi motivée par ses avocats, va se laisser aller au fur et à mesure des interrogatoires chez juge d'instruction.
De fait, après 5 mois derrière les barreaux, Audrey Louvet s'attendrit. À l'entendre, Rémi Chen lui a vendu une bien étrange histoire.
Écoute, oui, effectivement, je suis contrariée. Il y a un homme qui me doit beaucoup d'argent. Je risque de tout perdre, mon salon, ma fille, parce que je n'aurai pas de quoi la nourrir et donc elle va être placée auprès des services sociaux. J'ai trouvé 2 hommes qui sont des professionnels du recouvrement de créances qui vont pouvoir lui faire comprendre qu'il faut qu'il me règle ma dette, mais j'ai besoin de toi pour l'attirer dans un endroit un peu tranquille.
Là, Rémi Chen lui a montré la photo de son débiteur.
Elle dit « Mais je le connais. On a même eu une relation pendant quelques jours, donc je le connais. » Et là, Rémi Chen lui dit que c'est un signe du destin, que ça veut dire que c'est elle qui doit l'aider. Voilà. Et donc, à ce moment-là, Audrey, elle ne se pose pas de questions. Elle y croit, quoi. Voilà, elle croit à toute cette histoire.
À la demande du coiffeur, elle a donc repris contact avec Patrick Izoard et lui a donné rendez-vous ce 23 juin. Elle devait juste le faire entrer dans la grotte et partir. Ses aveux laissent la juge dubitative. Et évidemment, ils exaspèrent la défense de Rémi Chen.
Maître Luc Abratkevitch est aussi l'avocat de Rémi Chen.
Elle va donner un certain nombre d'éléments qui ne sont pas suffisants, qui ne sont pas probants. Mais bien sûr, elle va devenir le personnage central de ce dossier parce qu'elle permet de cristalliser la culpabilité de Rémi Chen. Tout en se dédouanant, hein, il est évident que Audrey Louvet s'est essuyé les pieds sur Rémi Chen.
Mais 5 mois plus tard, elle complète son récit devant la juge.
Elle explique que quand elle est arrivée, elle a fait rentrer effectivement Patrick Izoard dans la grotte, qu'elle a fait quelques mètres avec lui, et qu'à ce moment-là, ils ont vu un homme avec un fusil court, avec un sac et un masque vénitien. Elle qu'elle savait que c'était Rémi Chaîne, hein, bien entendu, qu'elle avait reconnu sa voix, etc., qui lui a pointé l'arme là, au niveau de la poitrine, et qu'elle, elle était tétanisée, et qui lui a dit « tu prends tes affaires et tu te casses ».
Et dans cette version, plus d'hommes de main, de complices.
Audrey Louvet nous dit ce qu'on a envie d'entendre, à savoir que elle a participé au guet-apens pour amener Patrick Izoard dans cette grotte, et que c'est dans cette grotte que Rémi Chaîne l'a ligoté avant de lui tirer deux balles de fusil dans le corps, et avant d'incendier ce même corps.
Or, pour la défense, la version de l'appât ne tient pas debout.
Ils sont nécessairement plusieurs. Rémi Chaîne seul ne peut pas exécuter cet homme dans les conditions dans lesquelles le crime a été réalisé.
Et leur client ne risque pas d'aider la justice à retrouver ces gens.
Encore une fois, ce n'est pas Rémi Chaîne qui va les donner les réponses, puisque du premier jour à son dernier jour d'instruction, il dira qu'il est innocent.
Audrey Louvet confirme donc le scénario des policiers, celui du guet-apens. Mais il y a encore une petite chose qui ne va pas. S'il n'y avait pas de complice, et si Audrey Louvet a immédiatement quitté la grotte, il a fait comment, Rémi Chaîne, pour menacer Patrick Izoard tout en le ligotant? Le 23 juin 2017, 3 ans jour pour jour après la disparition de l'agent hospitalier, la juge d'instruction organise donc une reconstitution pendant 9 heures. Et c'est encore Audrey Louvet qui va créer la surprise.
Vous venez d'écouter le 2e épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire de la mort de Patrick Izoard. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3.